Bonjour et bienvenue dans les chroniques de Flore et Jeanne, votre podcast 100% local. Je suis Flore et je reçois des professionnels, des passionnés, dont un des points communs est de vivre à Bordeaux ou ses environs.
Bonjour Ludovic, merci d'être venu jusqu'à nous.
Bonjour Flore, et bien merci de m'accueillir, je suis ravi.
Alors Ludovic, on se connaît via l'association Ensemble pour Entreprendre.
Oui, tout à fait.
Association dont la présidente est Esther, nos réunions se déroulent sur Artigues. La raison de cette association, c'est que les entrepreneurs soient solidaires, montent en compétences.
C'est ça, on est dans l'entraide, voilà. Chacun partage sa compétence et on fait profiter les autres.
Donc c'est dans ce cadre-là qu'on s'est rencontrés et tout de suite ton cœur de métier m'a interpellée puisque si chez Flore et Jeanne on s'occupe surtout des 4-12 ans, toi très souvent tu interviens après et juste tu vas nous dire pourquoi.
Ouais. Effectivement, j'interviens juste après. Je commence avec les jeunes à partir de fin de collège, donc ils commencent à avoir 14-15 ans. Et jusqu'à l'âge des études supérieures, donc 25-26 ans en fonction de leur cursus.
Donc toi, tu ne fais pas des fêtes pour eux, tu fais quoi?
Non, moi je ne fais pas des fêtes, je les encourage à faire la fête de temps en temps, mais justement, je vais plutôt leur parler des conséquences de la fête de trop, tu vois, ça peut arriver. Et moi, je vais leur parler d'eux déjà, je vais leur permettre de se découvrir un petit peu eux-mêmes et on va parler d'apprentissage, on va parler de leur vie, de leur projet d'orientation, dans un projet de vie global. Voilà, c'est plusieurs choses qui se recoupent au profit de leur bien-être et de leur projet au sens large.
Voilà. Donc en général, c'est les parents qui ont l'impression que leur enfant est un peu perdu, qui font appel à toi?
C'est ça. Je suis pour l'instant quasiment de manière intégrale interpellé par les parents. Et donc ça se passe toujours en deux temps justement parce que j'ai un premier échange avec les parents qui m'exposent leur point de vue sur la difficulté et je dis bien leur point de vue parce que lorsque je suis en séance directe après avec le jeune, souvent je me rends compte que le ressenti, le besoin n'est pas forcément le même justement. Donc je suis vraiment à l'écoute du jeune spécifiquement tout en prenant en compte quand même le positionnement des parents. Parce qu'il ne faut pas les oublier lorsqu'on accompagne le jeune. Et comme le coaching est un processus transformationnel, il ne faut pas creuser l'écart qu'il peut y avoir relationnel, éventuel avec les parents. Et donc voilà, j'accompagne aussi, je permets aux parents en tout cas de ne pas être perdus et de rester proches de leur enfant, voire des fois de les reconnecter.
Et c'est souvent lié à un problème scolaire ou ça peut être tout à fait autre chose, du style l'enfant qui est très renfermé, qui a de bons résultats scolaires, mais qui va être très renfermé ou qui se fait très peu d'amis?
Oui, c'est ça. En fait, ça va vraiment partir d'une problématique où on identifie un symptôme. Alors, c'est vrai que c'est souvent le symptôme, il est sur le plan scolaire, parce que on n'est pas forcément question d'échec scolaire, mais de difficultés ou de troubles au sein de la scolarité. Et c'est là qu'on va détecter, en creusant un petit peu, une difficulté sur un plan plutôt social, relationnel, de timidité, ou d'inclusion avec un groupe, ou relationnel avec les parents, voilà, qui peuvent déclencher des problématiques d'apprentissage. Ça va être vraiment sur le côté développement personnel du jeune. Et après, on aborde aussi des questions beaucoup plus pragmatiques d'apprentissage via les méthodes. Puisque je suis spécialisé en neurosciences, donc j'ai à cœur de les intéresser à eux sur comment fonctionne leur cerveau avant de leur dire ce qui serait bien d'appliquer comme stratégie au profit de leur apprentissage. Mais avant, c'est bien de savoir comment ça fonctionne et pourquoi. Voilà.
Et très souvent, quand les parents font appel à toi, ils ont en amont fait appel à un psy qui n'a pas trouvé de solution ou c'est des gens qui sont contre les psys qui font plutôt appel à toi?
Alors, il y a les deux. Alors, pas contre les psys, je ne dirais pas ça.
Méfiant ou...
Ça, je ne l'ai pas vraiment détecté. Je dirais plutôt qu'il y a des jeunes qui sont déjà suivis par un psy parce qu'ils ont une problématique. Et là, on va être sur plutôt des troubles d'apprentissage qui sont diagnostiqués. Donc, TDAH, HPI, pour en citer que cela. Et là-dessus aussi, j'ai une expertise. Non, parce qu'il y a une vraie demande par rapport à ça. Donc là, il y a une vraie précaution à prendre sur mon positionnement lorsqu'il y a un coaching sollicité. Pour pas noyer le poisson dans l'eau, comme je leur explique, c'est-à-dire que s'il y a, par exemple, si c'est une séance de psy qui vient de démarrer assez récemment. Souvent, je temporise un petit peu, je leur dis de peut-être patienter un petit peu pour le coaching, de mesurer bien les bienfaits ou ce que peut apporter le suivi psy, parce que si on fait les deux en même temps, il peut y avoir une
Interférence.
interférence et on peut ne pas savoir être perdu dans qu'est-ce qui est vraiment le plus opportun pour le jeune. Mais sinon, les deux ne sont pas incompatibles. Après, il y a des jeunes qui ne sont pas suivis par un psy, effectivement, mais qui ont des besoins pour lesquels ils n'ont pas forcément eu le recours ou l'idée de recours à un psy. Mais vraiment, le coaching, vraiment à distinguer du psy, puisque le psy vraiment s'intéressait à dénouer ce qui se passe chez le jeune, le pourquoi, pour arriver à interpréter et pouvoir en faire quelque chose, alors qu'en coaching, on part de l'instant présent, l'état, et on va vers l'état désiré. Donc on est sur plutôt un plan d'action, voilà. On comprend la situation, mais on ne s'attarde pas dessus, on n'essaye pas de dénouer le problème comme ferait un psy en fait. Donc c'est complémentaire.
Ok, donc toi, tu dis que tu es spécialisé en neurosciences, ça veut dire que tu as fait des études de médecine, tu as quoi
Non,
comme...
ça veut dire que j'ai suivi un cursus avec une école spécialisée en neurosciences par des docteurs en neurosciences, donc il y a l'Académie européenne de neurosciences qui dispense des cours donc très spécifiques pour justement ce qui était là pour le coup spécifique au métier du coaching pour avoir cette accréditation neurocoaching en fait. Voilà.
D'accord. Et alors, imaginons le cas d'un enfant qui n'a des difficultés scolaires que dans une matière parce qu'il y a comme un, on va dire, un blocage. Alors, je vais prendre un cas tout à fait précis, le mien, comme ça. Moi, dès que j'entendais le mot mathématiques, il y avait comme un, je disais toujours, il y a comme une espèce de brouillard. Je suis totalement hermétique, j'entends. Sans entendre. Est-ce que je me fais bien comprendre?
C'est-à-dire qu'en fait, c'est une forme de croyance, en fait, dont on parle.
Non, pas
Ah non,
croyance, c'est-à-dire. Non,
d'accord, ça
non,
y est,
non,
oui.
non, c'est que vraiment, ça me mettait comme dans un état second, comme si on m'enveloppait dans un cocon et que ce que disait le prof était non plus du français, mais
Une
une
forme
langue que je ne comprenais
d'herméticité,
pas.
d'accord, une forme d'herméticité à
Total.
la mathématique.
C'est quoi ça en neurosciences?
Alors, c'est pas que c'est quelque chose de particulier en neurosciences, c'est qu'en fait, il peut y avoir une histoire au départ, donc on va essayer de creuser un petit peu par le biais du coaching. Il y a du questionnement qui va venir un petit peu dénicher ce qui peut se passer depuis peut-être l'enfance ou un petit peu plus tôt. Ça dépend après la position du jeune, mais souvent il peut y avoir, c'est pour ça que je raccrochais directement une croyance, j'ai fait un pont rapide, parce qu'en fait il peut y avoir des choses qui créent en fait des blocages cognitifs sur une thématique, ça c'est possible. C'est une forme de trauma en fait, mais qui est très minime ici, comme lorsque le cerveau nous oblige ou choisit pour nous d'oublier quelque chose qui a été traumatisant pour soi. C'est le cerveau a la capacité de nous imposer des choix en fait. Ça ne veut pas dire qu'ils ont disparu, mais ils sont bloqués quelque part. Pour la mathématique ou une autre matière, en fait, il se peut que on ait une croyance qui soit venue s'inculquer très jeune, parce qu'on a entendu quelque chose, ou on a eu une expérience négative, ou l'expérience prolongée d'échec peut aussi engendrer que finalement il y a une forme d'abandon, de résignation aux mathématiques. Après, il peut y avoir une question, enfin, il y a vraiment plusieurs façons d'aborder les choses, comme il peut y avoir, avoir un vécu avec des professeurs ou des instituteurs, même beaucoup plus tôt, avec qui il n'y a pas eu d'alchimie pour comprendre. Parce qu'il y a une façon aussi d'aborder, c'est pas pour responsabiliser non plus les professeurs, mais justement le cerveau, chacun a sa spécificité pour comprendre et on a son propre mode de raisonnement. Alors évidemment, avec les neurosciences, on retrouve certaines catégories pour arriver à se retrouver et avoir des solutions. Mais pour répondre à ta question, voilà, il se peut qu'il y ait eu plusieurs facteurs, un ou plusieurs facteurs, qui aient engendré cette fermeture en fait aux mathématiques, comme n'importe quelle matière en fait.
Et donc, toi, tu fais comment pour retrouver la solution d'où ça vient? Parce que là, il y a un côté qui peut être psy, justement.
Alors, c'est psy dans le sens, là pour le coup, ce que je viens de dire, on est vraiment lié aux neurosciences, on va vraiment rechercher par du questionnement, on va venir fouiller par des questions et faire émerger des choses en fait. Ensuite, on va accompagner la personne pour que justement lui faire sortir, on va trouver des petits plans d'action aussi, parce qu'en fait, il faut essayer de comprendre par le questionnement, mais il faut aussi être orienté action en coaching. Donc, l'idée aussi, c'est d'accompagner la personne à se réconcilier avec les mathématiques, si c'est les mathématiques. Et donc, on va suggérer des choses. On va aussi questionner la personne, la challenger pour qu'il y ait de sa part des idées de micro-action, des choses pas très grandes mais faisables, atteignables, pour venir se rendre compte que finalement, à ça, j'y arrive. Ok, finalement, je ne suis pas nul, par exemple, en tout, mais ça, je suis bon. C'est aussi accepter ce qui est acquis, et nous, alors qu'on a une tendance aussi à occulter. C'est-à-dire qu'on se dit finalement, je suis nul en mathématiques, ça veut tout dire et rien dire. Tu sais faire une addition, tu sais faire une soustraction, bon là, c'est moins évident, mais tu sais cette étape de multiplication. On peut partir de zéro et se rendre compte que finalement, on sait des choses. Après, on n'est pas obligé de tout savoir et d'être un expert en mathématiques. Mais c'est voilà, c'est aussi refaire le point, prendre de la hauteur et recapitaliser ce qu'on sait finalement. Et en fait, c'est reconsidérer la question, en fait. On est là pour accompagner sur ce chemin-là.
Et donc, toi, ça veut dire que sur un jeune. Alors, je reprends toujours le même exemple,
Oui.
comme ça, c'est simple.
Voilà.
Donc, je ne suis pas bonne en maths, tu as compris le pourquoi du comment. Est-ce que tu vas me donner des exercices, j'ai 16 ans, tu vas me donner des exercices de maths pour évaluer où j'en suis et où jusqu'où je peux enfin, m'accompagner pour que j'aille le plus loin possible? Ou ce n'est pas du tout des exercices de maths qui vont être mis en place?
Non, je suis
Pas
ça,
du
on est
tout.
vraiment de l'accompagnement scolaire. Moi, je ne suis vraiment pas un accompagnant sur le plan scolaire, au sens du soutien scolaire, en fait. Alors, il se peut que, par exemple, il se soit intéressé. On peut arriver comme solution de proposition, d'action à mettre en place. Ça peut être une piste de se dire, mais je vais m'inscrire dans un cours de soutien scolaire. Parce que, mais je pense que, voilà, le but du coaching, ça va être plutôt de déverrouiller les cadenas pour aller et accepter d'aller vers autre chose et finalement se rendre compte que, voilà, il y a un champ du possible. Où la porte était jusque-là fermée, on l'a réouverte, on va venir réexplorer. Et c'est aussi, pourquoi pas, à la fois se tranquilliser et accepter que finalement, bon, on ne sera peut-être pas aussi bon qu'on l'aurait voulu, mais finalement, c'est accepter la
Acceptable.
situation et voir ce qu'on en fait de cette situation-là. Ok, je ne suis pas non plus, s'il n'y a pas une passion pour les mathématiques, est-ce quel est l'intérêt d'aller plus loin aussi, voilà. Est-ce que c'est justement parce qu'il y a un objectif, il y a des matières imposées et que là, ben, il faut assurer le coup? Voilà, donc il va falloir placer l'objectif aussi sur les matières. Et aussi, on encourage ben, à être en relation avec son professeur, aussi on donne des pistes par rapport à ça. C'est créer la ressource. Et souvent, la réponse, c'est ah, ben non, je l'aime pas, il m'aime pas, il parle pas, etc. Bon, il y a beaucoup de critiques sur le corps professoral. Là encore, moi, je suis là pour mon rôle, c'est pas de. Je remplace personne, hein, je suis aussi là pour encourager aux jeunes de faire avec leur entourage, et c'est pas toujours la solution ou la personne qu'ils auraient aimé, mais la personne est là, il faut faire avec et voir aussi leur apprendre à comment je vais tirer mon épingle du jeu avec ce contexte-là. Qu'est-ce
Oui,
que
parce qu'un
j'ai?
professeur, c'est éphémère. Ça dure
C'est
quelques mois dans
éphémère,
l'année. L'année
voilà.
d'après, il aura un autre prof
C'est
qui
ça.
sera peut-être plus en concordance avec ses
Voilà,
attentes.
c'est ça, exactement.
Et toi, en général, les enfants que tu, enfin les ados, on va dire, que tu suis, c'est plutôt globalement qu'ils ont des problèmes scolaires ou dans des matières spécifiques ou il y a un mélange des deux?
C'est plutôt une problématique assez généralisée en fait. C'est plutôt une problématique d'organisation de révision, savoir mémoriser. En fait, il y a des jeunes qui vont dire, je passe beaucoup de temps et ça sert à rien. Je capitalise du temps, mais j'ai pas le fruit de mes efforts en fait. Donc c'est là que moi en fait ma proposition globale, elle est sur trois piliers. Pourquoi trois piliers? Parce que même si je traite la partie d'apprentissage, il y a le premier, ça c'est le troisième pilier. Le premier pilier, c'est l'amour de soi. C'est fondamental à mes yeux parce que le jeune a besoin, comme toute personne en fait, mais dès le plus tôt possible, apprendre à s'aimer soi, c'est avant tout se connaître, se découvrir, faire le point sur ses capacités, les forces, les talents qu'il a, aussi ses faiblesses, les ressources dont il dispose, ses besoins, etc. Donc ça, c'est assez fort comme premier accompagnement, puisque ça permet de générer de la motivation, de la confiance en soi, de l'estime de soi. Donc ça, c'est un très bon socle. Il y a beaucoup la question de l'orientation, qui tourne autour de tout de toute façon. Pareil, l'orientation, j'ai une vision très personnelle, parce que je ne l'aborde pas exactement de la même manière, ou complètement de la même manière que le système le
Scolaire.
prévoit, système scolaire le prévoit, tout à fait. La question qui est posée aux jeunes à laquelle ils doivent répondre, c'est qu'est-ce que tu veux faire comme cursus, et comme étude et puis comme métier. Moi, j'inscris ça, et comme je l'ai évoqué au départ, dans un projet de vie global, C'est j'accompagne le jeune pour qu'est-ce que tu veux, comment tu imagines ta vie future, comment tu veux vivre en déplacement, en France, à l'étranger. On peut se poser plein de questions pour que son projet éventuel, si je donne un exemple, un jeune qui me dirait, mais moi j'aimerais aller dans plusieurs pays, travailler à distance, etc., ça m'éclaterait. Voilà, il s'imagine un mode de vie qui le fait rêver. Et puis s'il me dit, finalement, j'adore la menuiserie ou je rêve d'avoir mon magasin, bon voilà, ça va être compliqué. Maintenant, on cherche la corrélation entre les deux. Est-ce que c'est possible? Peut-être qu'il faut trouver des possibilités. Mais en gros, l'idée, c'est ça, c'est de qu'ils valident un projet de vie rêvé. C'est aussi leur permettre de rêver, qu'ils s'autorisent à rêver, quelque chose de grand, quelque chose de fou, même s'il faut, quitte après à revenir resserrer un petit peu les exigences parce qu'ils se sont un petit peu emballés ou que c'est compliqué à faire, etc. Et ils vont après venir un petit peu apaiser leur projet. Mais au final, c'est d'abord se permettre de rêver, voir ce qui est réalisable et après inscrire un projet, enfin après, dans un temps très court, venir intégrer un projet professionnel dans lequel je vous accompagne. Là, on est sur quelque chose de beaucoup plus conforme à ce que, en tout cas, ça répond à la question, aux attentes du système éducatif et scolaire. Voilà.
Moi, je trouve ça toujours très bizarre qu'on demande à des gens aussi jeunes de dire le métier qu'ils veulent faire, quoi, alors que les trois quarts des matières, ils ne les connaissent pas. On en voit quoi? Le français, le maths, les langues étrangères, etc. Les trois quarts des métiers qui existent sont insoupçonnables et les métiers de demain, on ne peut pas les imaginer. C'est quand même compliqué.
C'est compliqué pour eux. Là, ils sont vraiment perdus et les parents aussi sont perdus sur cette question-là. Là, ils sont vraiment en train de dire help. On ne sait pas comment l'accompagner par rapport à ça. Il y a en plus des parcours qui sont nouveaux, comme Parcoursup. Et bien là, il faut faire des choix dès la troisième avec un choix de classe, après une première spécialité avec des matières, et après un choix pour lequel, en fait, c'est pareil, une question de choix, alors que on évoque le choix, alors que finalement, ce sont des vœux, puisqu'ils ne peuvent pas vraiment choisir. Ils peuvent faire des vœux et on leur indique a posteriori s'ils sont retenus pour une école ou une autre.
Oui,
Donc, ça aussi, c'est anxiogène pour les jeunes.
surtout que c'est fait en fonction, souvent des résultats qui pourraient être complètement différents selon s'ils avaient eu tel ou tel prof.
Exactement, exactement, tout à fait.
Parce que des fois, il y a des enfants qui sont nuls en français jusqu'à la première et qui se révèlent
Et qui
être
se
excellents
révèlent
quand ils font de la philo en terminale.
avec un prof qui va vraiment leur parler,
Bah
pour
oui.
lequel il va y avoir une chimie, effectivement, effectivement, ça arrive, ouais, tout à fait. Et dans le projet scolaire et professionnel, là aussi, je les accompagne pour avoir un projet pas trop enfermé, parce que dès qu'ils ont une certitude, j'ai constaté. Ils savent exactement ce qu'ils veulent faire avec l'intitulé du métier. Ça génère un stress en disant, mais si j'y arrive pas, et si j'y arrive pas, et si je me plante, etc. Donc moi, je les encourage et je les aide à imaginer un projet dans lequel il y a des possibilités un petit peu plus larges, dans lequel ils peuvent aussi déjà aussi envisager plutôt largement un domaine avant de s'enfermer un métier. Tant qu'ils ont temps, par exemple, s'ils sont en troisième, on a le temps avant d'affiner son métier, on est plutôt sur un domaine. Prendre plutôt une voie, s'apaiser par rapport à ça, et apaiser les parents aussi qui ont besoin d'être rassurés par rapport à ça. Donc voilà,
Oui, moi c'est toujours ce que on
c'est.
a dit à notre fille, c'est prends le plus général possible pour te laisser le plus de choix possible le jour où tu sauras, parce que c'est difficile de le
C'est pas
savoir à
du
16
tout,
ans.
effectivement. Voilà, là, quand on ne sait pas du tout, c'est aller vers la solution qui permet. Après, le système aujourd'hui prévoit le plus possible de passerelles. Avant, ils ont institué le BUT, par exemple.
C'est quoi?
Ben c'est en fait, c'est le compromis entre le DUT et le BTS. Donc le BUT permet en fait, d'aller vers les deux passerelles. Voilà, donc on a un peu plus de solutions avec un choix unique. Bon, ça fait partie des solutions. Moi aussi, j'oriente aussi beaucoup vers ceux qui existent déjà. Donc les conseillers d'orientation, je ne les remplace pas, les conseillers d'orientation. Eux, ils ont la solution, ils sont spécialistes dans la filière, ce que je ne suis pas. Moi, je suis vraiment là pour aider à créer son projet, à l'orienter, à faire des choix, à trouver le sens, le pourquoi ce projet, est-ce que ça fait sens pour eux? Et là, ça génère de la motivation, de la confiance et surtout de la vision. Dès qu'ils ont de la vision, ils sont largement plus apaisés.
Oui, de toute façon, quand on sait où on va, on est quand même plus
C'est
serein,
un petit peu
même
le cas pour tout le
nous.
monde. Ouais, c'est bien d'avoir un cap, c'est ça.
Et c'est quoi qui revient on entend beaucoup de jeunes qui veulent être nomades, donc qui sont webmaster, graphiste, etc., photographe. C'est quoi, toi, que tu entends le plus souvent lors de tes entretiens avec les jeunes au niveau de leurs désirs?
Alors, il y a beaucoup tourné vers le numérique, ça c'est sûr. On est beaucoup sur des métiers, alors plutôt du digital. Voilà, c'est pas tellement le youtubeur, etc. Bon, il y a non, à l'âge de plutôt ça va être plutôt être vers 15-16 ans, enfin vraiment avec un peu plus de maturité lorsqu'ils sont vraiment sur les choix bac et post-bac. ils sont quand même plus raisonnables et ils imaginent vraiment des carrières.
Ouais.
Là, on va dire que le fantasme, voilà, par rapport au départ, c'est bien qu'ils le rêvent finalement.
Ouais.
Et je trouve ça chouette, hein, parce que finalement, ça révèle des choses d'eux finalement. Et ce qui peut être intéressant pour celui qui se voit youtubeur, c'est qu'est-ce qui te plaît là-dedans? Est-ce que c'est d'être vu? Est-ce que c'est d'avoir une liberté? Est-ce que c'est l'argent que ça peut générer? Ben voilà, c'est intéressant. De toute façon, ça permet de comprendre ce qui les anime. Et même si c'est dans autre chose plus tard, ils auront identifié des choses qui sont utiles pour eux. Donc vraiment, après, la majorité, pour répondre à ta question, c'est le digital. Oui.
Et le digital, pourquoi? Ils savent?
Ben, ça permet de travailler à distance, pas mal. Ça permet
autonomie.
De toucher l'autonomie et puis beaucoup les applications. Donc, quand il faut faire du web marketing ou ce genre de choses-là, dès qu'il faut toucher à l'ordinateur, ça marche pas mal.
Okay.
Ouais. Là, je pense qu'il y aura du monde dans l'avenir pour ça. Ouais.
Ouais. Ok, bon, eh ben, c'est pas demain qu'on va lâcher nos téléphones alors, et toutes ces nouvelles applis.
Non, je crois pas. Ça, c'est sûr.
Autrement, c'est quoi que tu as découvert à travers ce métier qui t'a surpris, toi? Est-ce que ça correspond, enfin, est-ce que le désir des parents, enfin, des souhaits des parents et des enfants correspond à ce que tu avais imaginé ou est-ce que c'est très loin de ça?
Non, mais justement, c'est exactement sur cette réponse que j'allais aller. Ce qui me surprend le plus, c'est l'écart, voire, enfin, c'est un gap immense entre la demande formulée par les parents et celle du jeune, c'est quasi rien à voir. C'est-à-dire que c'est même pas qu'il y a quasiment aucune concordance. Pourtant, avec des problématiques qui sont très précises évoquées par les parents. Et quand j'ai le jeune, alors des fois j'ai le jeune avec les parents, des fois je l'ai de manière de plus en plus, j'essaie de le voir à part tout de suite pour vraiment cerner son besoin à lui. Et en général, mais il y a un monde complet. C'est désarmant.
C'est un manque de communication entre parents-enfants ou une non-compréhension parents-enfants?
Alors, il y a un vrai trouble de relation entre parents-enfants. Moi, j'ai créé un sondage qui est toujours ouvert, en fait, et que je laisse alimenter régulièrement. Le relationnel, la problématique, en tout cas, de relation entre parents-enfants ressort pas mal. On est sur 40 à 50% qui se maintient.
Et c'est dû à quoi? Tu le sais? T'as compris? T'as fait des déductions?
En fait, c'est dû... Alors, souvent, le jeune évoque une forme de pression que ne reconnaît pas le parent. Elles ne reconnaissent pas les parents. C'est-à-dire le jeune se sent sous pression...
De réussite.
De réussite, voilà, de réussite académique, de bon comportement, etc. Mais surtout la réussite académique, alors même que les parents n'ont pas l'impression de mettre la pression. Ils disent non, on ne lui met pas la pression. Mais en fait, ils ne se rendent pas compte à quel point ils la mettent. Parce qu'on peut mettre la pression par une conversation qu'on tient à quelqu'un d'autre, en disant oui, mon fils, il est doué, il va y arriver, je suis fier de lui. C'est une pression, parce que ça veut dire qu'en gros, c'est-à-dire si je n'y arrive pas, je vais vous décevoir. Donc forcément, il y a beaucoup de pression. Et du coup, le jeune, souvent, essaie de faire bonne figure. Et j'ai eu des témoignages aussi, j'ai eu des échanges oraux avec eux dans le cadre de sondages. Et ils expriment ça, qu'ils n'osent pas dire à leurs parents, ils n'osent pas, ils ont peur de décevoir. Et du coup, ça crée un fossé qui s'entretient après durablement. Et c'est sur la durée que ça devient préjudiciable. Et lorsqu'ils ont une difficulté, ils n'osent pas forcément le dire.
De peur de décevoir.
De peur de décevoir, voilà, parce qu'ils ont l'impression de... Ben, c'est ce qu'on appelle le soi fort, hein, le soi fort, soi parfait, et surtout ne nous déçoit pas. Même si vraiment les parents nous jurent qu'ils ne mettent pas la pression, mais ils ne s'en rendent pas compte en fait.
Voilà. Et toi, dans tes coachings, tu as plus de garçons que de filles ou pas? Ou c'est kiff-kiff? Parce qu'on entend souvent que scolairement, les filles sont plus brillantes.
Ouais, non, je ne retrouve pas ça dans les coachings. Après, c'est vrai que j'ai des demandes de coaching pour des jeunes pour lesquels tout va bien aussi. Il y en a qui veulent performer, ou il y en a qui peuvent vouloir mieux ou préparer. Il y a aussi des sujets qui sont de l'ordre de je prépare mon dossier scolaire, mon dossier d'entrée, justement pour au moment du grand oral qu'ils doivent déposer leur dossier Parcoursup. Ils veulent le meilleur dossier possible. Donc ça, il y a un accompagnement un petit peu sur la durée par rapport à ça. Mais dans le cadre de coaching, donc je pense que ma réponse n'est pas représentative de la réalité, certainement du terrain. Mais non, moi, ça ne se ressent pas. C'est autant de garçons que de filles.
D'accord.
Ils ne réagissent pas de la même manière, c'est forcément. Mais bon, ça, après, c'est des subtilités, je dirais.
Donc en général, c'est arrivé à la seconde ou l'âge où tu interviens le plus?
Ouais, plutôt au lycée,
à la fin du collège.
Beaucoup au lycée, parce que le lycée, il y a vraiment une volonté d'être accompagné pour préparer ce dossier. Il y a la question d'orientation et de dossier. Et du coup, l'apprentissage vient se greffer. C'est assez magique quand le jeune arrive à réaliser, et ça fait partie de mes objectifs, à prendre conscience à quel point il a un pouvoir grâce à son cerveau, qui est un pouvoir quasi illimité. Et quand ils essayent et qu'ils découvrent à quel point c'est vrai, à quel point ils ont eux-mêmes le contrôle et qu'ils peuvent accéder à des choses auxquelles ils croyaient ne pas pouvoir accéder, en termes de capacité, c'est assez grisant pour eux. Et c'est chouette de les voir évoluer assez vite.
Oui, ben je comprends. En général, ça dure combien de temps un coaching? C'est tout à fait variable, je suppose.
C'est assez variable. Il peut y avoir des coachings sur l'année. C'est-à-dire que ça c'est après, c'est une offre qui s'adapte un petit peu à la demande et du besoin et d'où part le jeune et vraiment de ce qu'il veut atteindre. Le but, quand même, pour moi, dans le coaching, c'est au maximum de les autonomiser. C'est pas de les enfermer dans un besoin. Voilà, ça ne servait à rien. Il ne faut surtout pas qu'ils prennent un certain confort, le jeune, à être avec le coach, que ce soit la présence du coach qui soit la clé. Donc, le but, c'est de les autonomiser. Mais si on traite vraiment différents domaines, les uns après les autres, ça peut durer facilement une année. Voire, ça peut être un parcours sur les 3 années de lycée, par exemple. Ça peut se faire, mais par période, par exemple. Il peut y
Oui,
avoir
ça peut
d'autres.
être un entretien hebdomadaire pendant tant,
Voilà, il y
telle
a plus de
durée,
fois par
ensuite
mois.
mensuelle,
Voilà, c'est
etc.
ça.
Tout s'adapte au fur et à
C'est ça.
mesure.
Mais globalement, sinon la moyenne, c'est minimum 3 mois, je dirais, pour pouvoir traiter un sujet à minima. Ça, parce que 3 mois, c'est quand même relativement court aussi, donc ça
Ça passe
permet.
vite. Ouais.
Voilà. Et le coaching, c'est un parcours, comme je disais tout à l'heure, transformationnel. Donc c'est vrai qu'il y a l'impact immédiat, les choses qui font bouger les lignes chez le jeune, et il y a des résultats qui arrivent sur le long terme aussi.
Il
C'est
faut
pas,
que ça se
tout n'est pas
décante.
immédiat. Voilà, ça se décompte. Ouais. Un premier pas aussi d'accompagnement pour eux, en intégrant un groupe. Voilà, ça rend l'accès au coaching plus facile. Et en même temps, l'atelier, ce n'est pas complètement du coaching, c'est axé pas mal aussi sur les neurosciences. Et j'ai à cœur de créer des synergies au cours de ces ateliers en mettant en jeu l'intelligence collective de façon à ce que chaque jeune puisse s'exprimer librement. Il y a beaucoup de bienveillance dans les ateliers. Et c'est aussi un bon terrain pour développer sa confiance en soi, libérer sa parole progressivement, en créant des connexions avec les autres et trouver une place aussi dans un groupe. Voilà, ça fait tout ça. Et ça laisse place à certains suivis après individuels pour ceux qui veulent aller plus loin éventuellement.
Oui, parce que ça, c'est quelque chose qui est très développé dans l'éducation nordique, justement, le travail collectif, en groupe, où les enfants s'entraident, etc., chose qui n'existe quasiment pas en France.
Oui, exactement. Et là, c'est vraiment ce que je disais, c'est l'intelligence collective qui permet. Et en fait, c'est très coach, en fait, l'intelligence collective, parce que ça fait ressortir leurs propres idées, leurs propres stratégies pour répondre à une question ou une problématique, ou résoudre vraiment un problème. D'abord avec leurs propres stratégies qu'ils exposent, et ensemble, ils finissent par trouver une clé. Et après, ils ont éventuellement une solution, mais c'est même pas forcément toujours l'idée. L'idée, c'est vraiment d'arriver à travailler ensemble et se rendre compte aussi qu'ils ont des solutions autour et à côté d'eux, en fait, il y a
Oui, ce qui
entre jeunes.
est très utile dans une entreprise, que les gens
Par
sachent
exemple,
travailler
ouais,
ensemble et
c'est
non
ça.
pas forcément vouloir imposer son avis alors qu'on est toujours meilleur
Tout à fait.
à plusieurs. Donc ces ateliers collectifs, ils se déroulent où? Dans tes locaux, au domicile de l'un des participants? Ça se passe comment? Ou en
Alors,
visio?
oui, ça peut se faire en visio parce que j'ai un bureau à ce nom et j'ai un bureau aussi à Paris, Paris 9e. Donc, comme j'ai un public des deux côtés, ça permet de créer aussi, de rassembler autour d'une visio des publics qui sont éloignés. Et Aix-en-Provence aussi, j'ai eu des demandes. Donc voilà, ça permet de travailler vraiment à distance. Et sinon, je privilégie le présentiel au sein de mon bureau. J'ai une salle de réunion dans laquelle je peux l'organiser. Après, oui, dans le futur, je suis ouvert aussi à différents partenariats, à différents lieux. Ça peut évoluer aussi. Ouais.
Donc tu pourrais travailler tout à fait en partenariat avec des écoles, par exemple.
Complètement. C'est ça. Effectivement, j'ai de plus en plus de contacts avec les écoles et les prochains ateliers qui sont axés neurosciences sur une série pour laquelle je vais être expertisé expert avec la fabrique à neurones. Ça, c'est à partir du mois de mai, fin mai, début juin. Je vais pouvoir proposer aussi directement ces ateliers au sein des écoles, exactement. Collège, lycée.
C'est super.
Ouais, c'est super.
Mais par contre, tu parles de Paris, Aix-en-Provence, ça veut dire que c'est parce que tu as une demande de là-bas et que tu as été obligé d'ouvrir des bureaux là-bas? ou c'est quelle est la raison de ces différents sites?
Alors, j'ai pas de site à Aix-en-Provence. C'est vraiment, j'ai eu des demandes et j'ai des choses qui sont en cours avec cette région-là, mais c'est plutôt du privé. Hein. C'est vraiment des contacts souvent privés. Et il y a déjà un contact qui se fait avec un groupe scolaire privé, qui est un groupe Sainte-Marie, qui a une culture très développée justement de l'accompagnement des jeunes autour des capacités, des méthodes d'apprentissage. C'est assez innovant ce qu'ils font. Ça s'apparente beaucoup à ma proposition. Donc, on est en train de se côtoyer un petit peu pour voir ce qu'on pourrait faire éventuellement ensemble.
Parce qu'eux, ils ont des écoles dans toute la France?
Non, ils sont basés là-bas, mais ils ont tout un groupe scolaire à tous les niveaux scolaires, en fait.
D'accord.
Donc, c'est un truc assez étendu. C'est un groupe. Et voilà, donc ils mettent beaucoup de choses en place dans l'accompagnement du jeune. C'est pas mal individualisé, et le suivi en tout cas. Et à Paris, c'est par opportunité au départ, parce que j'ai développé un partenariat avec une partenaire qui est à la fois coach, mais aussi qui travaille sur la santé, le sommeil, la nutrition. Et donc, c'est aussi des thèmes que j'aborde moi dans mon coaching par rapport à tout ce qui est neurosciences et comportemental du jeune. Et tous ses bénéfices, ou l'inverse, hein, tous les mauvais comportements, tout ce que ça peut engendrer. Donc avec elle aussi, il y a des projets pour travailler sur des thématiques en binôme, notamment sur des ateliers ou des stages qui vont arriver au deuxième semestre ou l'année prochaine sur des stages de 5 jours, où je serai vraiment des stages en pension complète avec des jeunes, des groupes de 10-12. Et donc on développe ça ensemble et on a un bureau en fait qu'on partage sur Paris. Voilà.
Mais ces idées de stage là notamment, ça c'est des choses qui existent déjà ou c'est vraiment totalement innovant? C'est vous qui y avez réfléchi et vous répondez à une attente pour laquelle il n'y a pas d'offre aujourd'hui?
Alors on a été inspiré, pour dire la vérité, par un modèle d'association qui fait ça, qui fait des stages un peu immersifs avec des jeunes sous forme de, en gros pour peuvent s'apparenter à des colonies de vacances, mais du coup qui tournent autour des développements de soi, la confiance en soi. Donc à partir de ce modèle là qui est en pension complète, parce qu'il y a des veillées le soir, voilà, ça s'apparente aussi, ouais. Beaucoup, il y a des activités autour des repas à préparer, il y a vraiment un collectif qui se crée. On s'inspire de ce modèle là qui est associatif mais qui a l'air assez unique, on l'a pas vu plusieurs fois pour l'instant. On va en faire notre propre marque de fabrique, vraiment après, voilà, toujours je répète, mais autour des neurosciences, de tout ce que ça peut engendrer, de toujours de cette synergie là, intégrer des ateliers dans ce stage là. Des activités extérieures,
oui, que ça collectif. Fasse pas que travail, mais que ça fasse aussi, voilà, un peu vacances pour éviter qu'il, voilà, y ait saturation de la part du jeune qui, voilà, participe, que ça fasse un peu vacances quand même.
À la fois ludique et à la fois sérieux, pour qu'à la fin de 5 jours, il y ait vraiment un gros changement qui soit significatif et qui reparte avec une grosse énergie, des choses à déployer. Après, voilà, c'est un condensé en 5 jours de ce qu'on pourrait faire en quelques semaines ou mois, en fait.
Super. Donc là, je pense qu'on a fait le tour pour les jeunes.
Oui.
Parce que c'est déjà très, très complet, tout ce que tu proposes. Alors, tu nous as dit il n'y a pas longtemps, au sein de l'association, que tu t'occupais aussi des adultes et notamment, oui, des entrepreneurs.
Oui. J'ai aussi une offre qui est dédiée aux entrepreneurs. L'entrepreneuriat me passionne depuis, oui, longtemps. J'ai déjà été entrepreneur, moi, dans une vie professionnelle passée, parce que j'étais... Au départ de ma vie professionnelle, j'ai été maître d'œuvre et maître d'œuvre du coup. Donc, j'ai travaillé plusieurs années seul. Et je me rends compte aujourd'hui que beaucoup d'entrepreneurs en fait ont du mal à faire démarrer, à faire vivre leur projet en fait. Une fois qu'ils ont l'acquisition de leur spécialité, de leurs compétences en fait, bien, il y a une vraie difficulté à traduire ça en réussite professionnelle d'affaires. Et en fait, moi j'ai déjà aussi, lors de mes cursus différents et d'apprentissage, travaillé sur ces thématiques-là. Et de ma propre expérience, j'ai développé un programme très spécifique, adapté, étape par étape, pour accompagner les entrepreneurs en 4-5 mois pour faire de leur affaire quelque chose qui fonctionne en fait. Voilà.
Donc là, ça veut dire que tu les accompagnes aussi bien au niveau commercial que la recherche d'un comptable, que la recherche de la clientèle?
C'est ça, je les accompagne en fait sur tout ce qui va être l'élément clé sur le momentum en fait, par rapport à leurs demandes et leurs besoins. Mais effectivement, il y a une forme de parcours qui va s'intéresser à la clé de ce qu'est leur offre, en fait, le sens qu'ils y mettent, le pourquoi, comment ils s'y sont pris, leur expérience, etc. Donc, en fait, c'est un parcours étape par étape sur lequel on va placer des actions, hein, puisque c'est du coaching purement. Et à la fois aussi, il y a une part de développement personnel, tout ce qui concerne la motivation, la confiance en soi, le fameux syndrome de l'imposteur, etc. Des choses qu'on peut assez facilement parasiter avec les bons outils, la bonne méthode, on arrive à se mettre sur le bon rail pour entreprendre sainement, sereinement, je dirais.
Alors moi, ce que j'entends souvent quand je vais dans les réseaux ou dans notre association, etc., très souvent, c'est le côté quand même, la peur de prospecter, la peur de la partie commerciale. Est-ce que c'est ce que tu ressens toi aussi sur le terrain? Est-ce que c'est ça qui bloque le plus les entrepreneurs? La
Oui,
peur de prospecter?
tout à fait. Et
Ouais.
la peur de prospecter, si on gratte un petit peu la première couche, avant même cette peur, en fait, on se rend compte très vite, dans la plupart des cas, que les entrepreneurs ne maîtrisent pas leur offre. Et quand on ne maîtrise pas son offre sur le bout des doigts,
C'est difficile de
c'est
l'expliquer à un
difficile de
client et de la vendre.
l'expliquer, voilà, quand on n'est pas convaincu soi-même. Donc voilà, on n'a pas les mots, on ne sait pas réagir, on ne sait pas la présenter, ou elle n'est même pas juste claire pour soi. Et du coup, ben voilà, il n'y a pas cette énergie-là nécessaire et suffisante pourtant, mais du coup, voilà, ça bloque, ça crée des blocages. Donc moi, je ne suis pas spécialiste de la commercialisation, mais par contre, voilà, il y a tout cet aspect-là à traiter, à mettre en forme, à structurer. Et déjà, à partir de là, lorsque l'offre, elle est vraiment claire, qu'elle a le bon prix, que ça fait sens, que
Oui, qu'il y a de l'argumentaire,
quel
enfin
argumentaire,
quelque chose sur lequel on puisse
voilà,
s'appuyer, quoi.
c'est ça. Et qu'il y a un vrai travail de fait par rapport à ça. Déjà, il y a pas mal de freins qui se débloquent. Et après, ben, c'est pareil, il faut savoir qui est la personne la mieux placée pour prospecter, parce que c'est un métier aussi à part, et que tout le monde, en fonction, ça va être en fonction des métiers, ça va dépendre si on a une société, ça va dépendre si on est seul ou pas, ça va dépendre si on est auto-entrepreneur, des moyens qu'on a ou qu'on n'a pas. Voilà, il y a des fois, il faut savoir aussi des fois déléguer, donc ça va être permettre à la personne accompagnée de se rendre compte que finalement c'est quelque chose qu'il doit lâcher, ou au contraire quelque chose qui devient une contrainte pour lui, donc il va falloir trouver
Comment il pourra
comment il
faire,
va
parce que
pouvoir.
déléguer la partie commerciale, c'est quand même pas
Voilà,
évident, quoi.
exactement, c'est ça. Et ça permet, en étant accompagné, à l'entrepreneur de ne pas être seul, parce qu'il a quelqu'un qui peut se référer, avec qui il peut partager aussi ses doutes, ses actions, parce que voilà, on fait le point sur les actions qui sont menées. Et pas à pas, en toute logique, à chaque fois qu'il y a une action, il y a un résultat.
Et là, pour les entrepreneurs, tu rayonnes sur la Gironde, la Nouvelle-Aquitaine, toute la France?
Ouais, partout. Il n'y a
D'accord.
pas de limite.
Donc là, après, c'est ben, selon les besoins, je suppose. Ça peut être un énorme coaching, par exemple, d'une semaine au départ, et ensuite des rendez-vous
Ouais, complètement.
hebdomadaires ou
Ça peut être
mensuels par
hebdomadaire,
téléphone ou.
voilà. Et souvent, ça se conclut après par des rendez-vous qui deviennent que mensuels. Et après, il peut y avoir un rendez-vous annuel pour refaire le point. Est-ce qu'il y a un nouvel objectif qui apparaît, qui va être traité, etc. Après, voilà, il y a un suivi qui se fait. Et par à coup, on va revenir en mission de coaching pour se faire aider parce qu'il y a un nouveau produit ou finalement, il y a quelque chose qui ne marche plus. On cherche à
Oui, ou que
comprendre
petit à
pourquoi.
petit, on a oublié les
Ou on a
bonnes méthodes
oublié.
qu'on appliquait au départ et on a besoin de ce qu'ils appellent dans l'entreprise d'une piqûre de rappel.
Exactement. Par exemple, ouais, ça fait partie
Des
des
termes dont
cas,
j'ai horreur, mais qui est, veut dire ce qu'il veut dire.
C'est
Au
ça.
niveau entrepreneur, toi, est-ce qu'il y a des filières qui te semblent plus simples ou est-ce qu'il y a des filières que tu abordes plus que d'autres? Est-ce que, par exemple, je sais pas, moi. Tu t'es aperçu qu'il y avait plus de demandes de la part de gens qui font du bien-être ou c'est vraiment toutes les professions qui viennent à toi?
Non, c'est un peu toutes les professions et moi voilà, je m'enferme pas dans une spécialisation dans un domaine parce que c'est aussi challengeant pour moi et c'est très enrichissant aussi de découvrir en
Des
même
nouveaux
temps parce
métiers?
que moi je suis à même d'aider un entrepreneur même sans rien connaître à son domaine. J'ai pas besoin de m'y connaître dans son domaine puisque l'expertise lors du coaching, c'est le coaché lui-même qui l'amène en fait. Donc moi voilà, moi ma compétence c'est le coaching et du coup ça me permet justement de découvrir des métiers, de voir aussi ben, de pouvoir comparer des types de métiers avec d'autres et comment ça se passe, etc. Donc voilà, je ne suis pas enfermé dans un domaine.
Et est-ce que tu as des partenariats avec, par exemple, des juristes, des comptables ou des gens qui font de la com pour justement aider peut-être certains entrepreneurs qui, bah, par exemple, la com, ils savent ce qu'il faut faire, mais ils ne savent pas, ils ne veulent pas le faire. Est-ce que tu as établi comme ça des partenariats pour...
Oui, en
Oui?
effet. J'ai à peu près tous les domaines de couvert, je pense, jusqu'à ce que je me rende compte qu'il m'en manque un. Mais a priori, j'ai des partenaires d'à peu près tous les domaines qui peuvent être utiles. Et j'ai justement aussi cette capacité, moi, à savoir déléguer, à faire intervenir un spécialiste lorsque c'est nécessaire. Parce que il y a un moment donné où il peut y avoir besoin de quelqu'un d'expert dans un domaine. Même sur la prospection commerciale, j'ai vraiment une partenaire par rapport à ça. Donc ça peut être à un moment donné, moi je sens que c'est le moment de faire intervenir quelqu'un. Et voilà, et ça peut débloquer une situation plus rapidement lorsque c'est un peu plus technique en fait.
D'accord. Est-ce que tu as autre chose à dire au niveau des adultes ou est-ce qu'on a fait
On
le
a
tour? C'est
fait le tour,
déjà
c'est pas mal.
bien complet.
C'est déjà pas mal.
Est-ce que tu veux dire quelque chose de spécifique pour finir ce podcast? Ou on dit juste au revoir?
On dit juste au revoir maintenant.
Alors au
Ouais.
revoir Ludo.
Au revoir, Flore. Merci.
Merci.
Merci à toi.